Histoire orale de la production intellectuelle en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie.
Bonjour, c'est Mohamed. Et merci pour l'invitation. Et il a pour le temps, parce qu'on va te prendre un peu de temps, désolé. Je vais commencer tout simplement par... C'est qui Mohamed Azharabi?
Voilà.
Vous êtes qui?
Bonjour, c'est Lahbib. Vous êtes les bienvenus avec toute l'équipe, avec ton équipe admirable et formidable. On se connaît déjà, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble. Je dis, ça ne fait que commencer. Donc, cet entretien, c'est dans le cours normal des choses. Vous êtes à la Manoba, vous êtes chez vous, nous avons eu des réunions ensemble avec mon laboratoire. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il y a cette interview d'aujourd'hui. Alors, brièvement, pour me présenter, Gharbi Mohamed Lazhar, je suis né le 3-4-55. Ma famille Gharbi, c'est une famille d'origine algérienne. Et c'est déterminant pour moi, je vous dirai ça peut-être tout à l'heure pourquoi. Ma famille est répartie sur deux régions, la région de Bézerte et la région de Tunis, Tunisville. Donc, mon enfance, c'est le Bardo. Le Bardo, pas loin du palais, pas loin du musée, qu'on disait à l'époque Dar al-Ajaib, c'est la maison des mystères, Dar al-Ajaib. Et le paradoxe, c'est que mon école primaire était juste à côté, il y avait juste une ligne de chemin de fer qui séparait mon école primaire du musée des Bardo.
D'accord.
Et c'est là peut-être que mon sort a été joué. Parce que je vais faire une thèse, ma première thèse, sur le chemin de fer. D'ailleurs, lorsque j'étais, je crois, c'est le cas de primaire, j'ai écrit un poème sur le chemin de fer. Hein? Vous voyez? Donc, c'est un peu l'inconscient. Et donc, à chaque fois que notre maître est absent, on a une heure ou deux heures de libre, hop, c'est le musée de Bardo. Le musée de Bardo, donc je connais parfaitement tous les méandres, toutes les salles du musée de Bardo. Il m'est arrivé rarement de revenir sur ce lieu-là, lieu de pèlerinage, et j'étais fasciné par ce musée, par le Bardo. Le Bardo était déterminant pour moi. Déterminant pour moi, pourquoi? Parce que mon école primaire, c'est cette école du rue de Médine. Et puis, j'ai fait mon enseignement secondaire au lycée de Bardo, qu'on appelait à l'époque, lorsque j'étais gamin, on appelait le Sadiki, parce que c'était une annexe du lycée Sadiki. Et mon rêve, lorsque j'étais gamin, c'est d'aller faire mes études à Sadiki. C'était vraiment une grande bâtisse, une sorte de caserne. Il y avait le calme, il y avait la sérénité, il y avait le travail. J'ai reçu donc ma formation de secondaire au lycée de Bardo. Je parlais tout à l'heure du choix de la section lettres. J'étais, je suis pas brillant, mais j'étais brillant en mathématiques. Voilà, j'étais le premier, second, deuxième de la classe. Et en troisième année, année de l'orientation, nous avions comme professeur un certain Gharbi, c'est Abdelmajid Gharbi, par la suite devenu directeur des examens au ministère de l'Éducation nationale. Troisième année, on devait choisir sciences ou lettres. Et j'ai rempli mon bulletin et j'ai mis lettres. J'adorais l'arabe, j'écrivais des poèmes. Et à la sortie de la délibération du conseil des classes, il y avait mes amis, les élèves qui étaient là, et avec des notes de 9 et de 10, ils voulaient aller en sciences et faire médecine. Et moi, avec une bonne moyenne, 14 je crois, j'ai voulu faire lettres. Alors, je ne peux pas vous dire la colère de mon professeur, c'est Abdelmajid Gharbi. Pourquoi cette bêtise? Pourquoi vous avez choisi lettres? Et donc, moi, j'ai... vraiment, je ne savais pas pourquoi j'ai choisi les lettres. Hein. Je ne savais pas pourquoi. Donc, j'ai terminé mes études au lycée Khaznadar J'avais comme prof de philo Madame Belhaj Yahya, qui m'a marqué énormément. Elle était de gauche. Sa méthode d'enseignement était une méthode active. Elle m'a marqué. Elle m'a marqué. Et j'ai eu mon bac avec une mention et j'ai demandé philo, tout simplement. Donc j'ai reçu une bourse. Et c'était le 9 avril. C'est-à-dire la faculté des 9 avril, les sciences humaines, l'actuelle faculté des sciences humaines et sociales. Et donc, j'ai commencé ma première année de philo à cette institution. Sauf que, il y avait un voisin qui a voulu faire des sciences naturelles. Il voulait aller à l'école normale supérieure. Je l'accompagnais, revenant du 9 avril, allant vers le Bardo. Je l'accompagnais à l'école normale supérieure qui était à rue de la Liberté, au Bardo, entre différentes casernes. Donc, c'est inscrit en sciences naturelles. Et moi, j'ai demandé, est-ce qu'il y a une branche philo? Le fonctionnaire qui était là s'appelle Mabrouk Al-Misséoui, je me rappelle très bien. Il m'a dit, non, on n'a pas de philo, mais il y a la section histoire. Pourquoi vous ne faites pas l'histoire? Donc, je me suis inscrit. Pour faire plaisir à notre gars, tout simplement, il était gentil, je me suis inscrit en histoire. Et j'ai assisté parfois à du cours d'histoire, parfois à du cours de philo. Et il y a eu une concomitance, le calendrier était presque le même, donc je me suis dit, bon voilà, je vais passer l'examen d'histoire, si ça marche, c'est bon, si ça ne marche pas, philo. Et je vous dis, je l'avoue que j'étais mal à l'aise. Une histoire. Parce qu'il y avait des cours de histoire ancienne, de Moyen-Âge, avec M. Biakwa, professeur français qui venait, je crois, du Liban, avec notre professeur cher Ammar Mahjoubi, qui était le directeur de l'école normale supérieure, antiquisant. Et souvent, on faisait la grève le mardi, le jour de la séance d'histoire ancienne. Et un jour, il a pu avoir, je crois, deux étudiants, et il a donné un cours sur la démographie du Haut Empire, et c'était le sujet de l'examen. C'était en troisième année, Et c'est pour la première fois, j'étais recalé pour le mois de septembre. D'ailleurs, toute la classe a été recalée pour le mois de septembre. Donc, j'ai passé mes examens de première année, et ça marchait. Et depuis, j'étais à l'école normale supérieure. Et avec vraiment une génération qui a eu par la suite un certain impact en Tunisie. Je me permets de citer certains noms. Nourdine Doghi, historien, spécialiste d'histoire économique, mon collègue et ami, Mabrouk El-Mannaï, Tahr El-Mansouri, notre ami historien décédé. Nous avions des profs vraiment très excellents. Nous avions Taïb El-Bakouch. Linguiste, nous avons eu, j'ai eu Jaït, quatrième année, j'ai eu mon prof, Madame Ray Goldziger, venue à l'école normale parce qu'elle a quitté le PCF. Bien sûr, son patron, c'était Charles Julien, donc elle connaissait Bourguiba, elle est allée, elle avait sa maison à Mégrine, et donc elle est allée voir Bourguiba. Et hop, il l'a désigné à l'école normale supérieure et j'ai lu comme prof en troisième année. Donc, j'avais Hicham Jaït comme professeur qui nous parlait de Koufa, Basra, Tamsir. Et si je me permets de raconter certaines anecdotes, je crois en quatrième année, en troisième année, donc nous avons passé l'examen de Hicham Jaït. Il y avait les délibérations qui étaient fixées, par exemple, au 4 juin. Tout le monde était là, sauf Hicham Jaït. On a dû attendre plusieurs jours pour que Hicham Jaït soit là, pour délibérer. Et je me rappelle que, pour cette histoire de géographie physique, nous avions comme prof, notre professeur Alain Mottet, je crois, Alain Mottet, qui nous parlait de ses différents voyages, différents séjours, les volcans, nous séduisait par ces différentes histoires. Et à l'examen, j'ai eu 18. avec Madame Ray sur la révolution industrielle et j'ai eu 7 en géographie physique. Ça m'a permis donc d'avoir ma maîtrise en histoire tout en restant faible en géographie physique. Voilà donc mon parcours à l'école normale supérieure. Donc c'était toujours le bardo, mon cher Habib. Donc je n'ai pas quitté ce triangle. Mon école primaire, quelques centaines de mètres du musée de Bardot, le lycée Khazadar, pas loin de chez moi, à côté, il y avait la maison des jeunes, et un peu loin, c'est l'école normale supérieure. Donc voilà le triangle dans lequel j'ai évolué. Oui, ça m'a marqué, inconsciemment peut-être. Bon, l'histoire économique, c'est un autre problème, je vous dirais peut-être pourquoi il y a eu le choix de l'histoire économique. Alors, j'ai fait donc ma maîtrise de l'école normale supérieure, j'ai fait des stages, étant normalien, donc il fallait faire des stages, j'avais aussi des sciences géographie, et j'ai fait mon CAR, ce qu'on appelle le CAR, certificat d'aptitude à la recherche, avec le professeur, avec Mohamed Talbi, une histoire médiévale. Donc, sauf que par la suite, j'ai fouillé l'histoire médiévale. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours cette contrainte de l'histoire ancienne. Mais ça revient par la suite et j'ai écrit quelques articles en histoire médiévale, 3 ou 4 articles sur l'approche de l'histoire économique, c'est-à-dire l'histoire arabe vue par l'approche de l'histoire économique. C'était lors d'un colloque à Beyrouth, c'est un texte publié. J'ai écrit récemment un texte sur l'apport de Hicham Jaït en histoire médiévale. Et donc, je reste toujours attaché à l'histoire, quelque part, l'histoire médiévale qui est ancrée en moi. Donc, voilà la jeunesse, voilà les études. Par la suite, ça sera. Donc, après l'économie supérieure, j'étais prof au lycée de Mazel Bourguiba, lycée technique de Mazel Bourguiba, et c'est une autre histoire qui commence, une autre expérience. On en parlera de ça tout à l'heure. Voilà.
Et donc maintenant, tu es professeur à l'université de Menlo.
Oui, donc pas loin du Bardo, mon cher Habib, parce que le Manouba, vous savez, la chanson de Saleh a un dessin fait Manouba. Donc, lorsque j'étais gamin au Bardo, donc on venait le printemps à la Manouba, ou ouais. Edgriana. Il y a quelques Italiens, quelques Maltais qui habitaient dans la région d'Odgriana et on venait voir les vergers de la Manouba. Donc c'est pas loin de mon enfance qui est toujours là, qui est toujours présente. Il y a d'autres déterminants, d'autres paramètres de mon enfance qui sont encore déterminants, qui sont toujours là. Et j'ai failli me spécialiser dans l'histoire de la famille Husseinite. J'ai écrit quelques articles, j'ai enseigné des questions relatives à l'histoire médiévale, l'histoire moderne, les Husseinites, la famille Husseinite, mais ma spécialité c'est autre chose. Donc le Bardo, il est toujours là. Voilà.
Tu n'as fait qu'élargir un peu le triangle. En fait.
J'ai élargi le triangle et j'ai noué certaines relations avec des familles de. Du Bardo, je peux citer la famille Neifer. Nous avons un proverbe. Lorsque vous voyez un chat sortir d'une maison des Neifer, vous devez apprendre le savoir chez ce chat-là. Donc vous voyez, donc j'ai côtoyé certains Neifer, d'autres amis, de footballeurs, Mohsen Jandoubi et tant d'autres. Donc je reste marqué par cette période. Et j'ai écrit aussi sur les familles Beldi du Bardo. Et cette rivalité entre les familles Beldi, les Neifer, les Belkadi, j'ai un article sur, je crois, la base ou les fondements économiques des familles Beldi.
Donc, moi, je vais te ramener de nouveau à ton enfance.
Oui.
Et ce qui m'intéresse de savoir, c'est dans quel genre de famille tu as grandi socialement, en termes d'éducation, les parents faisaient quoi, par exemple, le père et la mère, et quel milieu tu as grandi?
Alors, mon enfance était, et je suis fier de ça, marquée par deux composantes. À la fois composante citadine et rurale. Je vous disais tout à l'heure que nous avons une partie de la famine à Tunis. L'ancienne maison familiale, c'est le Halfaouine, Zankoussid El Mena, est toujours là. La région de Bab Saadoun avec les Zouaoui. Et une composante rurale dans la région de Bézert et précisément dans la région de Mateur. Et donc, ce que je faisais, c'est que pendant les vacances, hop, c'est vers le nord. Et donc, j'ai une tâche particulière au monde rural. Et je connais la manière de travail, de vie, les termes utilisés par la société rurale des années 60, 70. Donc j'ai cette composante rurale qui est toujours là en moi. Je connais parfaitement le monde rural. Donc j'ai vécu dans ce monde rural et en même temps, le reste de l'année, 9 mois, c'est le bardo, c'est cette composante. Je ne dis pas beldi, je ne prétends pas être beldi. Je suis contre ce terme-là. Je suis élevé dans ce milieu-là, milieu du bardo, citadin, tunisien, disons.
Tu disais que tu avais des origines algériennes.
Algériennes, oui.
Tu peux nous expliquer quand est-ce qu'ils sont arrivés, les Algériens, des deux côtés, du père et de la mère, il y a des origines algériennes?
C'est du côté du père, plutôt.
Ouais. C'est quelle génération? C'est lui-même qui est arrivé? Si son père, c'est comment?
Je crois que c'est milieu des années 40, lorsque l'Amir Abdel Qadr est parti. Donc, ma famille faisait partie de l'Azmala de l'Amir Abdel Qadr.
Oui.
Et elle a combattu avec l'Amir Abdel Qadr. Et jusqu'à présent, on garde toujours le prénom Abdel Qadr. Le prénom Abdel Qadr, Sadiq et Mustafa. D'ailleurs, mon père s'appelle Mustafa, mon grand-père s'appelle Sadiq al-Mqaddam, on disait, parce qu'il était le Mqaddam d'une confrérie rahmaniya algérienne dans la région de Mjaz El Beb, donc qui sont toujours là au sein de la famille. Et donc, c'est avec l'Amir Abdel Qadr que nous avons quitté la région oranaise, disons. On est de Gris. J'ai des cousins qui gardent le nom Redici jusqu'à présent. Et donc, on était, je crois que c'est le Bujo, vous savez, la politique de la terre brûlée de Bujo dans l'ouest algérien. Il a incendié les troupeaux, les arbres, les douars et tout ça. Donc, et mon arrière-grand-père, il est né dans ce bateau qui transportait l'Amir Abdel Qadr vers son exil. C'est mon arrière-grand-père, oui, c'est ça, mon arrière-grand-père. Ça devrait être, je n'ai pas la date exacte, mais ça devrait être pendant les années 40. Donc, on est venu en Tunisie, et une partie de la famille est allée vers Damas. Et lorsque j'étais gamin, il y avait une certaine correspondance avec la partie de la famille qui était à Damas. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu des correspondances avec la partie algérienne de la famille. Mais jusqu'aux années 70, lors des mariages, on ne célébrait pas les mariages, on ne faisait pas de musique. L'expression que j'entendais, « Ahna hzana fi bled nes », nous sommes chez les autres. Donc, nous sommes dans une situation, disons, de huzn, c'est-à-dire de détresse, d'anxiété. Donc, nous sommes exilés, voilà. C'est là, dans la conscience
alors
familiale.
Alors que c'est la troisième génération.
Alors que c'est la troisième génération.
Et c'est resté.
Et c'est jusqu'aux années 70 qu'on a commencé à introduire la musique dans les... Et mes oncles, mon grand-père, sont toujours contre les aspects festifs et tout ça, parce que dans la conscience, nous sommes exilés, nous sommes inquiets, nous sommes des gens persécutés et ne sommes pas chez nous. Ça marquait toute la famille, génération après génération. Et ça restait quelque part en moi jusqu'à présent. Donc, il y a certains. Bon, je ne suis pas contre la musique ou les festivités et tout ça, mais quand même, j'étais élevé dans ce milieu-là.
Ça t'arrive de fredonner des chansons?
Sûr, bien sûr. J'aime la joie, j'aime les chansons et tout ça, mais ça restait dans notre inconscient.
Et du côté de la mer?
Alors, du côté de la mer, c'est une mer tunisienne. Pas une mère algérienne, c'est notre composante tunisienne locale. C'est dans la région du Kirouané.
Okay.
Voilà. Donc, voilà pour les ancêtres. Quoi d'autre? Donc, l'Algérie est toujours présente. J'étais directeur du département, mais bon, lorsque je m'énerve, parfois il y a des situations difficiles, je dis... N'oubliez pas que je suis algérien. N'oubliez.
C'était une revendication.
Pas une revendication, mais c'est une entité. Je suis tunisien, bien sûr.
Tu t'intéresses au football?
Oui, bien
quand
sûr.
Les deux équipes qui jouent, comment tu...
C'est difficile de trancher. Bien sûr, je suis pour la Tunisie. Je suis tunisien, je suis pour la Tunisie, mais l'Algérie est présente en moi et je vais vous raconter une expérience par laquelle je suis passé et c'était dur. J'ai pas trouvé de solution. Alors, voilà l'expérience. J'ai écrit un article sur les historiens tunisiens et leur espace, ou l'historiographie tunisienne de la période moderne, contemporaine et son espace. Donc, qui a travaillé sur quelle région ? Donc, l'historien par rapport au territoire. Bon, tel collègue a travaillé sur la région du Sahel, ceci, cela, parce que les Sahéliens, ce Sfax, ainsi de suite, l'Europe, si rarement, l'Empire ottoman. Et arrivant à mon cas, je me suis rendu compte que j'ai travaillé sur l'Algérie beaucoup plus que la Tunisie. Pourquoi ? Je n'ai pas trouvé d'explication. Non, c'est après coup que j'ai découvert, après coup que je me suis rendu compte, c'est un retour sur soi. Et c'est ça l'histoire, c'est un retour sur soi. Donc cette composante ou ce déterminisme ou cette identité algérienne est présente. Mon père a fait la guerre d'Algérie pendant 4 ans ou même 5 ans, je crois. Donc elle est rentrée après les accords de Vienne.
Avec l'FLN.
Oui, bien sûr. Elle était recrutée à... dans la région de Gardimaou, et il a pris avec lui toute une équipe de la région de Enrlel, Jbel Lkchab, Enrlel. Ce sont toutes des familles algériennes. Entre Chawat, Enrlel, Matr, Mazel Bourguiba, c'est un fief des Algériens. Il y a des fermes, il y a des familles algériennes qui sont installées là depuis longtemps, et il y a eu des recrues qui sont allés faire la guerre d'Algérie. Mon oncle aîné était responsable de collecte de fonds pour les Algériens. Donc j'ai un autre cousin qui a fait la guerre d'Algérie. Donc c'est une famille algérienne qui a combattu pour l'Algérie. Mon oncle aîné, il était à la fois un militant d'historien et un militant FLN. Et le hasard a voulu que je travaille avec Aniré, qui était avec son mari combattante du côté du FLN. Bon, le Bardo, à côté, juste à côté, il y a le Denden. Denden, c'est les Algériens. C'est une communauté algérienne. Actuellement, j'habite l'Ariana. Mes voisins aussi sont des Algériens.
À la maison, quand tu étais petit, vous êtes plusieurs frères et sœurs ou
Alors, moi, je suis l'aîné.
Et à la maison, quel genre de famille c'était? C'était cultivé, ils étaient cultivés, il y avait des livres, qu'est-ce qu'il y avait?
Alors, les livres, les journaux, ils étaient toujours là. Mes oncles, ils ont tous appris le Coran, y compris mon père. Mon grand-père était un imam. J'étais gamin, le soir... Tout le temps, mon grand-père m'appelle, j'étais à côté de lui, il récitait le Coran, et comme ça, j'ai gardé pas mal de versets du Coran jusqu'à présent. Et donc, il avait des ouvrages, pas mal d'ouvrages, de la tradition, hadith, de l'Al Khayrat et tout ça, une quantité d'ouvrages et de manuscrits, et malheureusement, je ne sais pas où ils sont partis. Malheureusement.
Mais tu étais autorisé à prendre un livre, à le regarder.
Oui, 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 oui. Ils étaient à m'apporter. J'étais, oui, le premier et le plus gâté de la famille à l'échelle large. Je ne sais pas pourquoi. Gâté surtout par mon grand-père, ma grand-mère. Et donc, il y avait les journaux, parce que surtout le journal du New Dessour. Il y avait le Kotab, où on apprenait le Coran. Donc, j'étais élevé dans ce milieu-là. On n'était pas des gens très ouverts, non ? Éduqués à la manière traditionnelle, je ne dis pas à la manière algérienne, un peu traditionnelle, parce que mon grand-père est donc il m'aime et donc était dirigeant d'une zawiya, Mqaddam, zawiya al-Rahmaniya. Il a même construit une mosquée où tous les soirs des gens venaient passer la nuit. J'étais donc élevé dans ce milieu-là. Alors, les études, oui. Oui. Les gens, c'est-à-dire de mon âge, ils ont tous fait de leurs études. Mes oncles font des études, ils ont fait des études arabes, hein, pas le français. À partir de ma génération, les années 60, ça commence donc l'ouverture sur l'école laïque, donc et le français, l'école moderne.
La maman, elle exerçait quoi comme travail ?
Ah, c'est une femme au foyer.
Plutôt traditionnelle.
Traditionnelle. Donc j'étais élevé dans ce milieu traditionnel avec une certaine tolérance, je ne dis pas ouverture, mais une certaine tolérance, et on croyait à l'éducation, à l'enseignement, et j'étais élevé dans un réseau de famille très, très large. On était ouvert sur d'autres familles. Mais l'éducation a compté énormément, hein. Tous mes oncles savaient lire et écrire. Et il y a un héritage de ce côté-là.
Quel genre d'étudiant tu étais ?
Les profs me prenaient pour quelqu'un de sage, très droit, mais je me permettais à côté certains trucs. Personne ne se rendait compte de cela. Et ma manière de travailler, c'était d'être présent. Depuis que j'étais au bac, voilà ma méthodologie de travail. Être présent, être attentif au cours, au prof, prendre certaines notes, et puis je refais mon cours. Et donc, j'étais contre cette manière, excusez-moi le terme, bête d'apprendre comme ça, d'une manière aveugle. Ah bon, j'étais contre. Et jusqu'à aujourd'hui, je dis à mes étudiants, n'apprenez pas par cœur. Voilà. J'avais ma manière de voir les choses. J'étais un peu provocateur, sage mais provocateur. J'avais toujours ma vision des choses. Je peux citer deux expériences. Lors de 5e année secondaire, on nous a donné une dissertation en arabe sur Tawhidi et sur Abu Nawas. Comparé. Un soufiste. Quelqu'un qui boit énormément. Et j'ai fini par dire à la fin qu'ils sont sur le même pied d'égalité. Tous les deux, ils fuient la réalité. Tous les deux, ils ont leur manière de concevoir la vie. Et chacun fuit la vie à sa manière. Et ils finissent par se rejoindre.
Bonne note là-dessus.
Oui, j'ai eu 13, je me rappelle très bien. C'est l'année du bac, ça m'a marqué énormément aussi. Alors, nous avons lu comme ouvrage le Mesadi Sud. Alors, et vous savez qu'il y avait Ghaylen et Maimouna, et Ghaylen qui voulait construire ce Sud, ce barrage, et Maimouna qui disait non, bon, il faut mener la belle vie et ceci, cela. Alors, sujet de dissertation au bac. Ghaylen représente la composante ou la partie occidentale chez le Messadi, c'est-à-dire l'homme, c'est l'homme qui crée la civilisation, Et Maimouna représente la partie arabo-islamique, le fatalisme. Que pensez-vous? J'ai fini par dire que Raylan représente... C'est la culture orientale chez Moussaadi, parce que Moussaadi, quelque part, il est soufi et il croit, il connaît le Coran, il croit que à l'homme, maître de son destin. C'est l'influence de la culture islamique. Et Maimouna, c'est l'influence de la culture occidentale, cette manière de la vie, n'abqali anfusina, concevoir la vie comme plaisir, c'est l'influence de la culture occidentale. Alors j'ai pris 16 et c'est resté dans les annales du lycée Khaznadar. Donc j'étais un peu provocateur et je le suis jusqu'à toujours sur le plan scientifique.
Est-ce qu'il y a une dimension ou une sorte d'engagement quelconque, ne serait-ce qu'intellectuel, politique?
Non.
Pendant la jeunesse?
J'étais contre le régime.
Oui.
Et je le demeure jusqu'à aujourd'hui. Mais au point d'être activiste, non. Le dernier ouvrage que j'ai écrit, Une transformation postcoloniale à la tunisienne. Cet ouvrage parle de la... Comment est la transition après 56. D'accord. Et je me suis rendu compte que on s'est occupé du politique et on a négligé l'économique. C'était peut-être le maillon faible de la transition de l'après 56, après l'indépendance. Bourguiba était intelligent, il a confié le dossier économique, disons, à Ben Salah, le collectivisme, puis Nouira. Donc il n'y avait pas de choix économique préalable lors de l'indépendance. 2010-2011, c'est l'identité, c'est le politique, aucun programme économique. Et à la fin de mon ouvrage, j'ai fini par dire on risque de commettre la même gaffe, encore. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le politique qui prime, aucune alternative, économique. Cette affaire, je me rappelle que j'ai assisté à une grande manifestation, je crois, en 67, Lucille Bardot. Bien sûr, j'ai participé aux grèves sédentines à l'école normale supérieure. J'ai jamais été au campus, là où il y a les grandes... grève. Donc, je ne sais pas pour quelle raison, oui, ça, c'est à réfléchir, pourquoi je n'ai pas participé à de grands mouvements.
Est-ce que dans la famille, il y avait, dans les années 50, 60, de ce que tu sais ou de ce que tu as
dit
après, est-ce qu'il y avait des fils là-dedans? Est-ce qu'ils étaient bourguibus?
Écoutez, la famille, je crois qu'elle était impliquée, je crois, hein, parce que je n'ai pas des éléments concrets, qu'elle était impliquée du côté bourguiba. Je me rappelle que mon père, mes oncles, la région, ils ont tous participé avec Mahjoub Ben Ali. Mahjoub Ben Ali, dans la région de Bizerte. Donc, certains membres de la famille étaient engagés de ce côté-là. Pas trop engagé. Hein. Mon oncle aîné était responsable du New Dessour. Donc, mais pas un engagement très clair, très important. J'étais récemment invité dans un colloque à Gafsa. Et là, je me suis demandé pourquoi je m'appelle Mohamed Lazar. Lazar, prénom. Donc, je suis né en 55. Lazar.
Ah oui.
C'est la composante militantisme, Felleg. Donc, ma famille, il y avait cette présence du côté, je ne dis pas Suisse, non, mais 55, c'est peut-être... Je me rappelle une petite chanson, « Lazar Sharaïti wa kulluhum nal abrar wa kulluhum nal itounis fida »« Lazar Sharaïti wa kulluhum nal abrar wa kulluhum nal itounis fida » je me rappelle très bien la guerre Marc Benzard, je me rappelle très bien. Et j'étais à ce moment-là dans les campagnes de la région de Bézerte, et je voyais les avions passer, on demandait d'éteindre la lumière le soir, et une famille, une maison hein, de ma famille était bombardée par un avion. Et la maison a été détruite par l'aviation française, il n'y avait qu'un bébé qui était sauvé, On lui a donné le nom de Habib. Habib al-Gharsali. C'est le nom de Habib. Donc, vous voyez, là, je crois que Bourguiba était présent, Lazar Schreit, oui, mais pas Yousfist. Je me rappelle. Je n'ai pas de souvenir de ce côté-là. Et je reviens à cette affaire d'activisme politique. Je crois que l'origine algérienne est déterminante. C'est-à-dire, nous avons combattu du côté algérien. Vous voyez le paradoxe. Mais du côté tunisien, on est là sur une terre d'asile.
Toujours l'exilé.
Hey,
on
ne
s'engage pas trop.
On ne s'engage pas trop.
C'est une affaire interne tunisienne.
Je crois, hein. J'ai pas de souvenir dans ce sens, mais je crois que c'est ça. Et je me rappelle que le 62, il y avait dans les souks le Berrer qui disait ceux qui veulent rentrer en Algérie qu'ils rentrent en Algérie. Et vous savez qu'on a eu la nationalité tunisienne, c'est les années 60. On a gardé la nationalité algérienne jusqu'aux années 60.
Et pourquoi vous n'êtes la famille? Toi, tu étais petit à l'époque, mais pourquoi la famille n'est pas rentrée en Algérie?
Peut-être qu'ils n'ont pas gardé les traces. Et lorsque j'ai fait ma maîtrise d'histoire et j'ai fait mon DEA, j'ai voulu travailler sur l'immigration algérienne. C'est pour retrouver les origines. Mais étant engagé dans l'histoire économique, j'ai confié à mon collègue et ami Abdelkrim Lemej, et je lui ai dit, écoute, tu travailles sur cette question, l'immigration maghrébine en Tunisie, il a fait une excellente thèse, et j'étais rapporteur de cette thèse d'État d'Abdelkrim Lemej.
J'ai une autre question sur les choix que tu avais fait, plus ou moins conscients, plus ou moins réfléchis, qui est lié d'une certaine manière, aussi au rural, ce que tu disais.
Quand
tu es fatigué, tu vas dans la
campagne. Oui.
Et moi, j'ai toujours la même question, au fait, en sciences sociales en général en Tunisie.
Oui.
Pourquoi les sciences sociales rurales sont si faibles? Pourquoi il y a très peu de travaux sur le monde rural?
Je ne peux pas donner une réponse, mais je donne une petite idée là-dessus. Je crois que le savoir est une question de citadin. Le savoir, il est produit par la ville. Il est produit par la ville. Et il y a des ruraux, mais qui s'installent. Une fois installés dans la ville, une fois ils sont universitaires, bon, je ne peux pas généraliser, mais la plupart, une grande partie, ils, je ne dis pas qu'ils renient leur identité ou leur origine, ils coupent les liens avec la campagne. Ce qui n'est pas mon cas, hein. Au contraire.
Justement, tu prends Havre-Sittin, par exemple.
Aye.
C'est un citadin.
Un citadin.
Absolument.
Oui.
Il a énormément travaillé sur le rural.
Havre-Sittin, à ma connaissance, les deux d'Arshaben. Vous savez qu'à Darshaben, il y a Fehri qui se considère citadin. Et il y a Chabni qui sont des paysans. Par exemple, notre professeur Tawfiq Bachrouch, il est de Fehri, citadin notable. Je ne dis pas ce qu'il pense des Chabani. C'est autre chose. Jusqu'à aujourd'hui, il y a cette querelle entre Chabani et Fehri, c'est-à-dire Baldi, citadin. Et rural, paysan, arbi. Arbi, c'est dans le sens de paysan. Donc, pourquoi il y a peu de travaux sur le campagne? Parce que je crois que la plupart de ceux qui ont travaillé sont des citadins. Et puis, je crois que dans un pays comme le nôtre, la dynamique historique, elle est faite surtout par la ville. Beaucoup plus que par la campagne. La dynamique historique, c'est-à-dire l'arrivée des Ottomans, qui a négocié? C'est les Beldis, les citadins. L'arrivée des Français, qui a négocié? C'est les citadins de Tunis, de Sfax. L'arrivée des Espagnols, c'est la même chose. Avec les Français, c'est la même chose. Donc les acteurs citadins, ce sont eux qui se placent en tant que médiateurs. Donc la dynamique historique, elle est faite par les citadins, par l'élite citadine. Et donc vous avez les ruraux qui sont à la traîne. Ils provoquent parfois certains mouvements, comme comme la du 7 décembre 2010, comme Ben Gadhem. Mais une fois qu'ils ont provoqué, cette révolte, ce mouvement, qui cultive les fruits de ce mouvement? C'est la ville, c'est les citadins. Donc, il y a un déterminisme géographique et historique qui fait que la campagne est à la traîne de l'action politique et sociale. L'action politique, pas sociale. Et donc, cela fait que la plupart des travaux se font sur la ville et non pas sur la campagne.
Mais quand on prend d'autres pays,
L'Algérie, c'est autre chose. Le Maroc, c'est autre chose.
Oui.
Les campagnes sont immenses. La
campagne marocaine est très développée.
Oui.
On a fait une dizaine d'interviews, les mêmes interviews.
Oui.
On a rencontré énormément de ruralistes.
Parce que là, c'est un pays rural, l'Algérie. Le Maroc est un pays rural.
C'est quand même, les chercheurs sont d'origine urbaine. La majorité d'entre eux. Ils ont grandi dans des villes. Ils ont eu une vie citadine, même s'ils ont des origines rurales, première, deuxième génération. Et pourtant, ça s'est développé. Du côté de l'Europe, les chercheurs les plus connus sur la sociologie rurale sont d'origine urbaine aussi.
Donc c'est un phénomène général.
Mais bizarrement, Tunisie, du moins,
les gens qui
concernent la géographie, ce qu'on appelle globalement la sociologie rurale, que ce soit anthropologie, géographie sociale, des choses comme ça, ça reste un énigme pour moi. Pourquoi c'est si faible?
Pour l'histoire, oui, la plupart sont des citadins, même ceux qui sont d'origine rurale le disent d'une manière un peu ironique.
Il y a très peu de travaux d'historiens.
Oui. Oui, je confirme.
Sur le monde rural, sur les mouvements, les évolutions sociales.
C'est à creuser. Ça peut faire l'objet d'une recherche. C'est à creuser. Pourquoi, en humanité, les études sont faites par des citadins, pour des citadins, peut-être.
Mais est-ce que l'histoire est écrite par des citadins, pour des citadins?
Je pense que oui.
J'avais une autre question plus générale. Qui écrit l'histoire?
Vous parlez de quelle période?
L'histoire contemporaine, évidemment.
Là, il y a une dérive. Ceux qui écrivent l'histoire de la Tunisie contemporaine sont des citadins d'une région particulière de la Tunisie.
Laquelle?
Ce sont des gens de la région de Sousse, de
Sahel.
La plupart, c'est de la côte, disons, en général. La côte. La côte, pas uniquement les villes, mais la côte. Il y a certains historiens qui sont de certaines villes de l'intérieur, mais la grande majorité, peut-être on peut vérifier pour l'histoire moderne et contemporaine, surtout l'histoire contemporaine, c'est la région côtière, et précisément la région du Sahel.
Est-ce que je peux faire un raccourci en me disant c'est le pouvoir qui écrit l'histoire?
Oui, et moi je conteste cette manière d'écrire l'histoire contemporaine et l'histoire nationale. C'est une histoire, faite, construite par Bourguiba, par les vainqueurs de Ben Youssef. Et cette histoire, malheureusement, elle est reprise dans les écoles, dans les universités récemment. Et 10 ans après la Révolution, on n'a jamais repensé cette histoire telle qu'elle était construite par le pouvoir. J'ai commencé à le faire, il y a d'autres qui ont commencé à le faire dans cet ouvrage que j'évoquais tout à l'heure. Moi, je suis contre cette manière de voir l'histoire de notre pays. L'histoire était une histoire nationale, c'est-à-dire faite, la lutte est faite par des gens de toutes les régions de la Tunisie, Gafsa, Gasserine, le Nord-Ouest, le Sud. Cette thèse de notre professeur Hamad Chérif, cette thèse disait que le Sahel, il y avait une élite sahélienne. Pourquoi? Parce qu'il y avait une petite bourgeoisie sahélienne qui a envoyé ses enfants aux écoles. Il y a une élite cultivée qui a fait que, lors de l'indépendance, c'est cette élite qui a pris le pouvoir. Moi, j'ai dit non. Non. Il n'y avait pas d'élite au Sahel. Il n'y avait pas de bourgeoisie au Sahel. La bourgeoisie, elle était à Sfax. Si on veut développer cette thèse, ça serait Sfax qui devait prendre le pouvoir, parce que la bourgeoisie, c'était une bourgeoisie sfaxienne. Malheureusement, le Sahel, c'était, écoutez, Sousse, c'était une ville, je ne dis pas secondaire, hein, pendant la colonisation, et même avant, mais c'est qu'elle était beaucoup plus importante que Sousse. On a falsifié l'histoire. Vérifiez le nombre d'habitants de Sousse et de Sfax, de Msek, par exemple. Donc, il n'y avait pas de bourgeoisie sahélienne. La preuve en est, l'école porteur, le Baya. Je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène ou pas. Ce sont des gens qui sont nés les campagnes à Dodane, avec des produits de la ville, des petits bijoux, des petits bonbons, je ne sais pas quoi, des gadgets pour les femmes. Ils vont jusqu'en Algérie, hein, jusqu'à Tbessa, jusqu'au nord-ouest, jusqu'au nord tunisien. Et après l'indépendance, ils ont pu avoir des propriétés. Et le même réseau de colporteurs s'est transformé en d'autres réseaux. Certains sont maintenant, non pas à Nice, mais même aux États-Unis d'Amérique. C'est le même réseau. Donc, malheureusement, le Sahel a profité. La bourgeoisie sahélienne, c'est l'État national qui l'a créé. Pas le contraire. Pas le contraire. Là, on a usurpé l'histoire de la Tunisie. Et il y a cette principale mutation. Et c'est le Sahel qui a créé. L'histoire.
La naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui la bourgeoisie sahélienne.
Hey.
Donc autour de Sousse, Monastir, ouais, et compagnie. Ouais. Est-ce que ça c'était volontairement programmé, exécuté par le pouvoir de Bourguiba, hein, l'État national, mm-hmm, ou est-ce que c'est le résultat d'une période de corruption, de favoritisme et ainsi de suite? Ma question est au chercheur, à l'historien. Comment décrire cette période et la naissance d'une bourgeoisie, c'est pas un processus simple.
Je crois que la deuxième hypothèse est beaucoup plus valable. Si nous sommes à la Manouba, pas loin de nous, là-bas, c'est le moyen vallée de la Medjerda. Vous savez qui possède les terres? Bon, c'est le domaine de l'État. Mais de grandes propriétés, hein, de Tbarba, de Mjaz el-Beb jusqu'à Ghar el-Melh, ce sont des gens de Monastir. Je connais les noms de personnes qui ont des fermes, qui ont des propriétés. Je connais parfaitement la région. Et il y en a d'autres aussi. Certains disent, oui, Bourguiba est propre. Oui, il est propre. Il n'a pas eu, n'était pas corrompu. Oui, bien sûr. Mais qui a donné les fermes à Bellera, c'était quelqu'un qui était pro-bourguibien. Il n'est pas sahélien, mais pro-bourguibien. Donc, c'est le favoritisme de l'État national qui a fait que certains ont profité. Et je me rappelle qu'il y avait un petit chemin de fer, tramway, ligne. Il y avait le trolley, ligne de Tunis jusqu'à l'Ariana, Tunis jusqu'au Bardo. Je me rappelle qu'il y avait un Français qui disait qu'il ne fallait pas détruire cette ligne, il faut la garder. Bourguiba Café. Chut. Les chemins de fer. Vous savez que la plupart des lignes, maintenant, ne fonctionnent plus. Pourquoi? C'est pour donner des concessions à des gens, à des autorisations, pour des louages, pour le transport et ainsi de suite. On a sacrifié notre réseau chemin de fer. Voilà pourquoi il y a actuellement des problèmes énormes de transport pendant l'Aïd, pendant le retour des vacances, parce qu'on a sacrifié ce réseau qui a été créé pendant la période coloniale.
Sacrifié au profit d'un petit nombre, si j'ai bien compris ce que tu dis.
Oui, c'est pour permettre à certains de profiter d'avoir des concessions de transport, de louage ou d'autres moyen. Donc, bon, dire qu'il n'y a pas eu de corruption, bon, c'est vrai, bon, Bourguiba était quelqu'un d'intègre, propre, mais quand même, l'entourage a profité, et c'est là des intérêts qu'on a accordés aux dépens de l'intérêt national, malheureusement.
Comment les Beldiyes ont réagi par rapport à ça, à ton ami? Est-ce qu'on sait s'il y a eu des conflits, même cachés, entre les Beldiyes et les nouveaux bourgeois, si je peux dire, la nouvelle bourgeoisie naissante du Sahel?
Oui, le conflit, il a existé depuis longtemps. Il a existé. Je vais vous raconter une anecdote. Alors, Bourguiba est venu, lorsque, avant l'indépendance, demander la main de Wassila. Et son père, qu'est-ce qu'il a dit ? Natish le binti karar, le sahli kararti. Je ne donne pas ma fille à un charretier. Le conflit, il est là. Certains disent Bourguiba s'est marié avec Wassila, c'est une sorte de revanche. Hein, c'est ce qu'on raconte les gens de la région de Mars. Hein. Donc là, c'est un peu de la mémoire populaire, disons, de la région. Le conflit a demeuré, bien sûr. À la tête de l'État, des responsabilités, c'est toujours des gens du Sahel, avec un Djerbien, Sadq Mqaddem, autant d'autres. Mais peu de. Au début, il y avait un Juif, mais peu de Beldi. Oui, il y avait un Beldi là pour calmer le. Un Qaïd Sibsi, il y a l'histoire de Tahar ibn Ammar aussi, Tahar ibn Ammar qui a signé le protocole de l'indépendance, mais par la suite on l'a accusé d'avoir volé les trésors de la famille Baylikal, jusqu'à présent, la famille Ibn Ammar et d'autres familles Beldi gardent un mauvais souvenir de Bourguiba et son fils Chedi Ibn Ammar a écrit un ouvrage récemment sur. Cette histoire. Oui, les familles Beldi ont gardé quelque part une certaine amertume. Et moi, je pense, c'est ma lecture des choses, qu'après 2014, l'alliance Ranouchi Qaïd Sibsi, c'est une alliance entre les deux catégories et les deux régions exclues par Bourguiba, par l'État sahélien, le Sud et les Beldi. Voilà ce qui explique l'alliance entre Ghannouchi et Bech Qaïd Sibsi. C'est mon point de vue. Hein. C'est une alliance entre les deux régions, les deux catégories sociales refoulées et exclues par le pouvoir sahélien bourguibien.
Pourtant, Sibsi, je me trompe peut-être, mais oui. C'est un héritier du bourguibisme.
Mais les Beldi, n'oubliez pas. Beldi. Écoutez, Sibsi, il a utilisé la carte Bourguiba, tout simplement. C'est vrai, l'opposition d'historienne, Hassib Ben Ammar, Ahmed El Mestiri, Beji Qaïd Sibsi, il était contre Bourguiba, à un certain moment, depuis les années 70-80. Parce que les quelques Beldi qui ont cru à Bourguiba, c'est un peu les quelques partis qui ont cru aujourd'hui à Qaïd Saïd, ils ont quitté. Vous voyez ? Après un certain moment, ils étaient convaincus de la réalité. Et donc, oui, ils étaient du côté de Bourguiba, mais ils se sont rendus compte qu'il a profité d'eux. Et donc, la révolution 2014, donc c'est les Beldi. C'est pas par hasard que Chehdi est président du gouvernement. C'est pas par hasard, c'est un Beldi. Donc, vous avez l'élite Beldi qui revient au pouvoir après 2014. Avec l'appui du Sud tunisien, Nahda Sud tunisien, le Sud et les Beldi qui reviennent au pouvoir. Et toute la bataille actuellement, c'est toujours la même bataille, Sud d'un côté, Nahda, conservatisme, le conservatisme de Nahda, le Sud, territorialement. Bon, il y en a Nahda présente dans d'autres régions, même au Sahel, mais le fief de Nahda, c'est le Sud. Les Beldi, qui sont toujours là, et les Sahéliens. C'est là l'enjeu principal en Tunisie. Hein. Ce n'est pas autre chose. Le Sud, Nahda, oui. Les Beldi, oui. Et le Sahel. Nahda, Mizir sur Qaïd Saïd, parce que pour eux, les conservateurs, ici, ceux-là. Les Sahéliens ont misé sur Qaïd Saïd aussi. Je ne veux pas parler de ces attaches familiales. Hein. Et même Libel, ils ont misé parce qu'elle a vécu à Tunis. Elle est du Cap-Bon, elle a vécu à Tunis. Et donc, ça pourrait être un Beldi. Mais, donc, vous voyez que ces trois forces sont toujours sous-jacentes, elles sont là, et la bataille n'est pas encore terminée. Il y a la composante sfaxienne qui est là. C'est elle qui pèse. La composante sfaxienne, c'est les jutités. C'est elle qui pèse. C'est la classe moyenne qui pèse.
C'est les sfaxiennes qui jouent les arbitres.
Oui. Vous savez, le 12 janvier, c'était déterminant, le 12 janvier. C'est la grande manif de Sfax. C'est Sfax qui détermine, qui tranche à la fin. Les Sfaxiens restent à l'écart, ils s'occupent de leurs affaires, mais ils détiennent les ficelles entre les mains et au dernier moment, ils disent leurs mots.
Ça peut se reproduire ?
Bien sûr, le dernier, vous savez, 55. La querelle Benousse-Bourguiba, ça a été tranché à Sfax, le congrès de l'Égypte en 1955 à Sfax, novembre 55 à Sfax. Le dernier congrès de l'Égypte, c'était à Sfax. Donc, si l'Égypte est derrière, c'est Sfax qui va trancher actuellement. On verra par la suite l'évolution des événements. C'est ma manière de voir les choses, mais je reste à l'écart. Vous voyez, pour parler de cette opposition ou actif. Moi, le 25 janvier, j'ai tout saisi. J'écris un texte sur la révolution. Je l'ai écrit deux jours après le 14 janvier 2011. Je l'ai écrit, je le garde toujours. Je ne l'ai pas publié.
Et pourquoi ?
J'ai dit que la révolution n'est pas une question de. On a détruit, mais il faut reconstruire. Et une révolution faite par les jeunes, et à la tête de laquelle se trouve du vieux, c'est fini, c'est l'échec. Depuis le 16, pour moi, c'était l'échec de la révolution. C'est pas normal qu'une révolution soit faite par la classe moyenne, par les jeunes, qui soit récupérée par le conservatisme, par Nahda, par les vieux, par...
Il n'y avait pas une origine rurale et aussi sud, double origine, à la révolution.
Si, ça explique un peu la moitié de Nahda, parce que c'est rural, il y a Sidi Bouzid. Vous savez, je me suis amusé un peu à voir l'itinéraire. J'ai écrit un article scientifique que je n'ai pas voulu publier. Dans cet article, j'ai comparé la révolution de 64 et celle de 2011. C'est un peu le même itinéraire géographique. C'est une révolte rurale. Dans les villes, ceux qui se sont révoltés sont les quartiers et les familles d'origine rurale. Haït Tadamen, Ghira, Kabari, ainsi de suite. Les régions Beldi, Manza, Marsa ne sont pas révoltées. Donc c'est une révolution rurale, récupérée par la ville. Et on a cru à un certain moment que Nahda a un réseau rural, donc pour cette raison qu'elle a mis la main sur la révolution.
Et pourtant, quand il y a eu les premières élections, à Sidi Bouzid, ils ont fait un score relativement médiocre.
Nahda ?
Oui.
Oui, parce que Sidi Bouzid, c'est une région de gauche. Gasserine, Sidi Bouzid, Gaf, c'est le chef de la gauche. Mais Nahda, dans les zones rurales, pas dans le nord-ouest. Le nord-ouest, c'est Béjikad, c'est plutôt. Mais c'est surtout dans le sud, dans les fins fonds des campagnes tunisiennes, le centre, le sud.
Il y a un sud, il y a un nord en Tunisie. Il y a cette opposition-là.
Pour moi, la Tunisie, c'est un territoire réduit et il n'a pas assez de diversité. Il y a des régions naturelles, oui. Mais pas au point de dire qu'il y a des régions politiques ou sociales. Avant 81, et même 82, et même jusqu'à les années 1900, on disait l'Arad, Nefzawa, Hmema, Barwurgama, Loutan, Talmatouya. Donc, il n'y avait pas cette entité qu'on appelle aujourd'hui le Sud. C'est les Français qui ont créé cette notion du Sud. Parce qu'ils ont créé le sud algérien. Puis ils ont parlé du bassin oriental, du Sahara oriental, pardon, Sahara oriental. Et après, les années 30, ils ont créé cette notion du sud, et ils ont créé cette notion de Sfax, capitale du sud. Donc c'est une construction française. Cette répartition du territoire tunisien, le tel, le nord, le centre, la steppe, le sud, comme trois entités différentes, c'est une construction française et faite par les géographes français, c'est dans la continuité de la vision du territoire, de la conception du territoire algérien. Vous savez que notre histoire, notre géographie, toutes les constructions et les perceptions ont été faites par les Français selon la vision algérienne, selon leur vision du territoire et des habitants de l'Algérie. La Tunisie, c'est un autre paramètre. Donc, on a hérité cette vision française qui a été construite par les géographes français de la période coloniale et par les historiens aussi. Pour eux, le tel, c'est le prolongement du tel, l'Atlas, c'est le prolongement de l'Atlas algérien, les hautes plaines, et ainsi de suite. Et le sud.
Tu dis pour eux.
Pour eux.
Et pour toi, il y a
Attends. Pour eux, et ça a été malheureusement repris sans être discuté par nos géographes tunisiens aujourd'hui. Tu en sais quelque chose. Tu es mieux placé que moi pour en discuter. Pour moi, cette répartition, elle est artificielle. Il n'y a pas suffisamment de différence. Il y a des genres de vie, peut-être. Il y a des climats, peut-être. Des microclimats, peut-être. Ici, à la Manouba, on peut trouver deux ou trois microclimats, peut-être. Mais l'entité, elle est une. Donc, cette répartition, ce morcellement et ce décloisonnement, c'est un territoire en miettes qu'ils veulent construire et fabriquer. Alors que moi, je ne vois pas... Écoute, pendant la période moderne, on parle de la transhumance. On parle de transhumance des tribus. C'est vrai, transhumance, mais c'est un commerce. Les drides qui se trouvaient au centre, les mêmes qui vont vers le nord, les ourghem, les jlidettes qui se placent, ils faisaient du commerce en même temps. Le blé du nord, ils le ramènent vers le sud, les huiles et les dattes vers le nord, et il y a un réseau d'échanges. Donc il y avait une complémentarité entre les tribus. Le territoire était façonné par les tribus et non pas par le pouvoir. Et c'était une entité telle qu'elle était pratiquée, conçue et pratiquée et vécue par les tribus. C'est après l'État national, c'est après le Sahel et entre autres la vision des scientifiques français qui a fait qu'il y a eu ce morcellement et cet émiettement.
Est-ce que pour l'historien toujours, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en 2022 que la tribu reste un acteur?
C'est un acteur majeur. Vous savez, cette modernité qu'on revendique, oui. Mais malheureusement, en Tunisie, nous avons une manière de concevoir la modernité qui est un peu erronée. Cette modernité, pour nous, c'est une coupure. Avec le passé, avec les autres genres de vie. Moi, je ne conçois pas la modernité. L'histoire, c'est la continuité. Ce n'est pas la rupture. Il n'y a jamais eu de rupture en histoire. Hein. Jamais. Vous avez des modes de vie du Moyen-Âge qui sont toujours là, et même de la période ancienne, la période berbère, qui sont toujours là. Donc, cette modernité comme un acquis nouveau, la rationalité, l'ouverture, oui, la mondialisation, oui, tout ça, oui. Mais avec une couche qui est là, la partie cachée de l'iceberg qui est là, c'est la tribu, c'est la mentalité, c'est les anciennes représentations, c'est l'appartenance rurale qui est toujours là. Donc, l'héritage, quelle que soit sa nature, il est toujours pesant. Et la tribu, elle est toujours là. On ne peut pas faire concevoir un programme économique, on ne peut pas concevoir un parti politique ou autre, ou une stratégie de quelque nature que ce soit, sans que, ou des élections, sans prendre en considération la composante tribu. Elle est éternelle chez nous. Parce que pour Bourguiba, la tribu, il faut décomposer le monde tribal. Oui, décomposer le monde tribal, le résultat, c'est l'immigration. C'est l'immigration. C'est que vous avez maintenant des zones à l'intérieur, que ce soit au nord, au sud ou autre, qui sont des zones où il n'y a plus de familles installées, où il n'y a plus de gamins pour aller à l'école. Et c'est la désertion. C'est pas mal de problèmes liés à l'environnement aussi, parce qu'on a déserté les régions. C'est un patrimoine qui se perd. Un patrimoine naturel, rural, et même un patrimoine bâti qui est perdu dans les fins fonds des campagnes. Donc on a vidé les campagnes parce qu'on a décomposé les tribus, parce qu'on a déconstruit, on a démonté les tribus et les anciennes structures sociales. Malheureusement, on aurait pu les conserver avec, tout en introduisant la modernité, l'enseignement.
C'est compatible ?
Oui, c'est compatible. C'est compatible. Why not? Moi, je ne crois pas au modèle. J'enseigne un cours qui porte sur l'Europe du 19e siècle, la naissance du capitalisme. Le capitalisme européen, sa conclusion, c'est qu'il n'y a pas de capitalisme. Il y a plusieurs capitalismes. À l'anglaise, à la française, à l'allemande. Un capitalisme allemand avec la présence de l'État, des mutualités. Français avec la présence de la banque, et ainsi de suite, et capitalisme anglais avec la présence de la matière première et de la houille comme source d'énergie. Différentes conceptions et modèles de capitalisme. Et donc, chacun a sa voix. Chacun a son modèle. Il n'y a pas un modèle à inculquer et à imposer aux autres. J'y crois pas. Quel que soit le domaine. Hein. Il n'y a pas un modèle à inculquer et à imposer aux autres. Ni sur le plan économique, ni social, ni culturel ou autre. Chacun vit la modernité à sa manière. Chacun vit... Oui, c'est vrai, il y a des composantes qui sont là, qui sont partagées par tout le monde. C'est vrai. L'enseignement, l'ouverture, la technologie... on ne peut pas vivre sans voiture. Ça, c'est l'aspect banal, disons, de la modernité. Le fait d'avoir un portable, ça ne signifie pas que je suis ouvert sur la modernité. Ce n'est pas ça. La modernité, c'est un état d'esprit. C'est la rationalité. C'est un équilibre avec soi-même. C'est ça. C'est être bien dans sa peau. Être un citadin, rural, citoyen du monde, citoyen tunisien, citoyen algérien comme moi, c'est une harmonie. Être en harmonie avec soi. Moi, comment je conçois. Pour cette raison, moi, je dis que le nationalisme tunisien n'est pas un nationalisme achevé. Parce qu'il était construit et conçu dans l'opposition, l'opposition à quelque chose. Une fois que ce quelque chose est parti, chut, il n'y a plus de corps national. Il n'y a plus de nationalisme. Il y a le chauvinisme. Il y a autre chose aussi. Donc, ça permet quand même de forger cette conscience nationale. Personnellement, je ne peux pas concevoir notre histoire sans l'apport positif et négatif du colonialisme. Mais est-ce qu'on peut parler du capitalisme tunisien? Je me pose des questions. Je me pose des questions. Est-ce qu'on a les éléments d'un capitalisme? Je me pose la question. Un petit pays comme la Tunisie, qui n'a pas assez de richesses, donc il a uniquement des services à vendre. Oui, le tourisme, mais le tourisme, il a aussi ses risques. Vous savez, il y a eu la guerre du Liban, début des années 70. C'était une chance ratée. Parce que Nouer a vendu le pays avec la loi de 72. On aurait pu faire de la Tunisie une plaque tournante de finance internationale. Là, elle aurait pu. On aurait pu créer les premiers pas d'un capitalisme financier tunisien.
Les coopératives, c'était aussi une tentative de créer, consolider ou de créer, je ne sais pas, je te laisse utiliser le mot qui convient, le capitalisme tunisien, non ?
Non, l'esprit des coopératives, ce n'est pas dans un esprit capitaliste, c'est dans un esprit socialiste ou socialisant,
ouais, mais
collectiviste.
Capitalisme,
et c'était fait dans des sphères paysannes, pas dans les grandes régions de grandes propriétés, pas dans les grandes affaires commerciales, pas dans les grandes banques. C'était un secteur marginal, dans les campagnes tunisiennes, chez les paysans. Et c'était pas un capitalisme tunisien. Voilà, nous avons raté deux chances. Il y a la période que j'ai évoquée tout à l'heure avec la guerre du Liban, avec Nouir, 70, la fin du collectivisme, et avec le commerce maritime, le commerce surtout sfaxien, avec l'Égypte, avec Tripoli, avec Izmir. Au XVIIIe siècle, il y avait un élan commercial. On a accumulé pas mal de capitaux et d'argent. À ce moment-là, ça aurait pu donner un capitalisme industriel avec l'industrie de la chachia, qui était répandue à l'échelle mondiale, en Afrique, en Europe. Sauf que ce qui a empêché l'évolution d'un capitalisme industriel tunisien au XVIIIe siècle, c'était le monopole pratiqué par le bey. À chaque fois qu'il y a une richesse accumulée, le bey confisque la richesse. Donc, à ce moment-là, on aurait pu évoluer au même moment qu'en Angleterre avec une révolution industrielle textile dans le domaine de la chachia et dans le domaine du commerce maritime. Mais le monopole beylical, avec un État qui n'était pas ouvert sur la modernité, c'est ça qui a bloqué cette évolution. Donc, il y a cette chance du 18e et il y a la chance des années 1970.
Ouais. D'accord. Alors,
je parle en tant qu'historien, pas en tant qu'économiste.
Oh oui, bien sûr, c'est la lecture de l'histoire,
oui.
La tienne, du moins, que d'autres partagent peut-être et pas.
Alors,
est-ce que l'historien encore, Mohamed Lazar Gharbi, est fier de son bilan ? Est-ce que tu penses avoir contribué à écrire l'histoire à ta manière ? Donner ta lecture de l'histoire et l'écriture, les deux à la fois. Et est-ce que, troisième question, et là ça fait parler, par rapport aux générations auxquelles tu as transmis ta manière de lire l'histoire et de l'écrire, est-ce que ce bilan-là te semble aujourd'hui positif ?
C'est pas facile de répondre. Il y a beaucoup de choses à dire. Je crois, lors d'une séance, ou je ne sais pas quand, il y a quelques mois, je me suis permis de dire que maintenant, je commence à être un pseudo-historien. Après 10 livres, 10 publications, après une thèse au deuxième cycle, une thèse d'État, plusieurs publications, plusieurs colloques. Je considère que je ne fais qu'accomplir un pas ou deux, pas plus. Parce que si je compare ce que j'ai fait par rapport à ce que je pensais ou je devais être, ou ce que j'espère faire, si je compare ce que j'ai fait par rapport au chantier scientifique en matière d'histoire, le bilan est très maigre, modeste. Oui, le bilan est modeste. Parce que j'ai pas mal de sujets en tête, pas mal de thématiques que je veux travailler, et j'ai pas le temps. Il n'y a pas une qualité d'étudiant qui te permet. Parce que les thèses que je donne, ce sont des questions que je me pose, que je donne à des étudiants pour tester avec ces étudiants-là. Une thèse sur la conscience économique de l'élite tunisienne, ma première thèse que j'ai dirigée. Parce que j'avais envie d'écrire cet ouvrage, j'ai donné la matière à un étudiant, il a fait cette thèse. Donc les thèses que je dirige, ce sont des projets, des réflexions sur des thématiques données. J'ai pas mal de choses à faire. mais je n'ai pas suffisamment de temps, je n'ai pas peut-être la capacité physique ou même intellectuelle de faire tout cela. Pendant le confinement, j'ai écrit cet ouvrage pendant un mois et demi, Transition postcoloniale à la Tunisienne. Un mois et demi, j'ai profité de... si on m'accorde une année ou deux pour rester à l'écart, j'ai un projet de 5 ouvrages qui traite de l'histoire économique. Hein? Je peux même vous donner les thématiques. Et j'ai cette mauvaise ou cette bonne habitude de divulguer en plein public des thématiques. J'ai un jour annoncé, parlé de Saint-Simoniens, ils sont chers pour moi, les Saint-Simoniens, et j'ai dit, il y a de quoi faire un travail sur l'effet des Saint-Simoniens dans le monde arabe. Et un beau jour, je me suis trouvé avec une fille qui va parler de Saint-Simoniens dans un colloque. Son directeur de thèse que je connais, il s'est retiré de la salle lorsque j'étais président. Pourquoi ? Parce qu'il était présent lorsque j'ai annoncé l'idée et il l'a donné comme sujet de thèse à cette fille qui a massacré la thématique, malheureusement. Malheureusement. Donc, les idées sont là, les projets sont là. Je n'ai pas le temps qu'il faut. Je tente de travailler, de profiter de quelques années qui sont toujours là pour encadrer les étudiants, mais j'ai pas mal de choses à vouloir faire avec mes étudiants que je voudrais faire moi-même, mais malheureusement, l'effort humain est limité. Ce qui m'intrigue, c'est que parfois vous avez un étudiant ou un collègue qui vient vous demander « Aïch, quand est-ce que c'est sujet ? Est-ce que vous avez un sujet à traiter ?» Et le sujet que je donne, modestement, je le dis modestement, hein, tout le monde est surpris, que ce soit les étudiants, que ce soit les collègues. Pendant 5 ans, j'ai fait l'étude de toutes les archives de Vincennes et de Quai d'Orsay pour les microfilmer, pour les déposer ici à l'Institut de l'Histoire du Mouvement National. C'était la période 82-87. Je faisais partie de cette commission des sources de l'histoire tunisienne en France. Donc, je connais parfaitement les archives européennes, françaises, pardon, et je connais aussi les archives tunisiennes. Et donc, je peux me permettre de donner des sujets. Et puis, le domaine sur lequel je travaille, l'histoire économique, c'est un domaine délaissé. J'ai tout un projet scientifique. Vous savez, j'ai créé une unité de recherche, histoire économique et dynamique territoriale. Maintenant, tout le monde, tous les historiens, hein, 90% travaillent sur le territoire. Tout le monde. Même dans les projets de master et de licence. Parce qu'on est enfermé dans une vision de l'histoire, une vision politique ou idéologique de l'histoire, enfermé dans quelques données, et certains historiens de renommée ne connaissent même, n'ont jamais mis les pieds dans les archives nationales ou autres. Il y a de grands noms que je ne veux pas citer, malheureusement. Donc cette connaissance d'archive, le fait, je ne dis pas de lire, de fréquenter, j'ai eu la chance de fréquenter, j'étais l'étudiant d'Aniré, j'étais l'étudiant de Mohamed Chérif. Ah oui, je leur dois beaucoup, surtout Aniré, je lui dois beaucoup. C'est elle qui m'a orienté vers l'histoire économique. Et j'ai fait la thèse du troisième siècle avec elle et avec Bouvier, Jean Bouvier était présent dans ma soutenance. J'ai assez séminaires sur l'histoire bancaire et pour cette raison j'ai choisi l'histoire bancaire encore par défi parce qu'une autre composante de ma personnalité, j'aime les défis. Je veux être à l'écart de tous parce que j'ai choisi l'histoire économique, j'étais le seul. Mon collègue Yami Nordine Dogui a choisi de travailler avec sur Sfax-Gafsa, avec Aniré, le même professeur. Il a fait cet état là-dessus. Donc, je dois me démarquer. J'ai choisi l'histoire bancaire, que personne ne maîtrise en Tunisie. Oui, me démarquer des autres.
Tu penses que maintenant, on peut parler d'une école de l'histoire économique tunisienne? Est-ce que tu n'as pas été l'un des cofondateurs?
Oui, cofondateur, oui, mais je crois que il n'y a pas une accumulation du savoir qui permet de parler d'une école tunisienne d'histoire économique ou même d'une école historique tunisienne.
C'est grave ce que tu viens de dire.
Oui, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et c'est la dégringolade du niveau scientifique.
Comment tu l'expliques? Est-ce qu'il y a une explication déjà et comment toi tu l'expliques?
L'explication, c'est que les gens cherchent la facilité. Vous savez, vous avez maintenant des profs d'enseignement, des historiens profs d'enseignement supérieur qui n'ont jamais fait de thèse. Agrégés, puis bon. Donc la carrière. Ce qui les intéresse, c'est la carrière. Donc il n'y a pas une accumulation au niveau du savoir historique qui permet de parler d'une école historique tunisienne au sein du laboratoire d'Iracet au 9 avril que j'ai contribué, cofondateur avec Abdel Hamidani. Dans ce laboratoire, on a produit un certain savoir historique et on a une certaine identité. Nous avons beaucoup travaillé avec une équipe dynamique, avec Sami Barghewi, qui a aussi son empreinte, avec Jamel Bentahar, avec Hassine Boujar qui vient d'être décédé. Nous avons produit, et nous avons produit même, je dirais, à l'international. Hein. Nos travaux sont lus en Russie, en Allemagne, sont reconnus partout. Hein. Mais malheureusement, ce laboratoire, par la suite, il a perdu cet élan, pour pas mal de raisons. Pour pas mal de raisons. Donc, il n'y a pas d'école historique tunisienne parce que certains sont carriéristes, parce qu'on aime la facilité, parce qu'il n'y a pas de conditions de synergie. Chacun veut travailler seul. Il n'y a pas cet esprit de groupe, d'équipe. Et autre chose, si je me permets de comparer au Maroc, il y a des traditions. Et au Maroc, les historiens marocains sont une véritable armée avec ses généraux, ses colonels, ses caporaux, ses soldats. Il y a une véritable hiérarchie parce que la société marocaine, elle est faite ainsi. Il y a encore des valeurs, des normes. Ça aide à travailler et à orienter la production vers un sens donné. La Tunisie, oui, même le bourguibisme, c'était une révolution. La République, c'était une révolution. D'accord, c'est bien. On a écarté les Berlis, c'est bien. Mais il n'y a pas de normes. On a perdu un peu la boussole. On ne sait pas où on est. Est-ce qu'on est société de classe moyenne, société conservatrice, moderne.
Il y a une nouvelle génération. Il y a une génération qui peut se préparer à prendre la relève.
Malheureusement, non. Malheureusement, non. Quelques-uns, mais avec un écart au niveau scientifique. Et je me demande, est-ce que cela c'est d'une manière spontanée ou est-ce que ça a été calculé quelque part par le politique? Parce que l'histoire, ça dérange. La philo, ça dérange. La sociologie, ça dérange. Il y a eu, il y a quelques jours, le 60e anniversaire du CRS, Centre d'études de recherche comme tout ça. Le grand CRS. Il y avait Abdelkader Zghal, il y avait Settem, il y avait Chahed Al-Ayari, il y avait Khaled Manoubi. Ce sont des sommités, il y avait Ibn Salem, Erhama. Ils étaient là, ils produisaient, ils travaillaient sur le plan économique, social, avec peu de moyens, ils produisaient. Et c'est là qu'a créé le développement des années 60-70. Après, Bourguiba, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, le CRS, ce nid de vipères. Chut, on a tué le CRS. C'est une citadelle vide. Actuellement, au niveau des programmes de recherche, il n'y a pas de programme de recherche pour les humanités. Les subventions à la recherche, sciences dures, oui, les sciences humaines, non. Donc on est marginalisé, écarté au niveau officiel, au niveau de la réalité.
Il y a une volonté politique derrière.
Oui, je crois que oui. Et nous, on prête les flancs. fais appel, je ne dis pas aux médiocres, mais pas aux meilleurs. Les meilleurs, en Europe, on fait appel aux meilleurs. Aux meilleurs sociologues, aux meilleurs historiens, aux meilleurs, pour les écouter, pour apprendre. Et on leur donne le temps de parole qu'il faut. Et les politiques, Benjamin Saura, le rapport de Benjamin Saura sur la guerre d'Algérie, on fait appel aux scientifiques. Je ne suis pas contre ça. Mais qu'on fasse appel aux bons scientifiques, aux véritables scientifiques, pas aux charlatans de la science. Donc voilà, je crois que cette élite en sciences humaines, elle est en train de disparaître. Il n'y a pas un grand nom, je ne vois pas de grand nom. Je ne parle pas comme les vieux, c'est-à-dire après moi c'est les déluges, non, ce n'est pas ça, mais je ne vois pas de personne qui pourrait, je ne vais pas prendre la relève, qui pourrait donner un élan. Peut-être il y en a un ou deux, peut-être. Hein. En sens, en histoire ancienne, oui. Oui. En histoire ancienne, oui. Dans une nouvelle génération qui travaille sur la préhistoire de la Tunisie, c'est une excellente. Il parle anglais. C'est une équipe formidable qui publie en anglais. Et l'autre Finadel, en histoire ancienne. Il a bouleversé la recherche en histoire en matière d'histoire ancienne. Oui, en histoire ancienne et en préhistoire, il y a une accumulation, il y a une nouvelle génération. Je ne vois pas cela en histoire moderne, contemporaine. Je vois peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai oublié. Hein. Il se peut qu'il y ait quelques-uns. On verra bien. Il y en aura certainement. Je reste optimiste. Mais connaissant la valeur de la production scientifique en histoire moderne et contemporaine, et même en histoire médiévale, je suis un peu informé, je ne suis pas très, très, très optimiste là-dessus. Voilà. Et surtout, excuse-moi, j'ai oublié, c'est le problème de la langue, il est pour quelque chose. Parce que la plupart des nouveaux doctorants et certains collègues sont unilingues. Donnez-moi des ouvrages ou un sujet que je peux travailler avec des sources en arabe, uniquement en arabe. La plupart sont unilingues, la plupart des étudiants. Des collègues aussi, certains collègues sont unilingues. Alors que maintenant, on vise l'international. Moi, j'ai un handicap, je l'avoue, c'est l'anglais. Je n'arrive pas à écrire et à publier en anglais. C'est un handicap, je l'avoue, j'ai mes limites. Je lis, oui, je lis, je comprends, mais j'arrive pas. J'ai participé à des colloques, colloques de la commission, de la conférence internationale d'histoire économique à Amsterdam. Il n'y a que les Maghrébins qui parlent le français, qui défendent le français. Les Français se mettent à l'anglais, malheureusement. Donc, il y a ce problème de la langue aussi.
Quels sont tes références intellectuelles, par qui t'as été influencé, je te demande trois ou quatre noms comme ça, tunisien ou étranger?
Il y a Amna Belhaj Yahya, mon prof de philo. C'est une femme actuellement militante, elle écrit des romans. On l'aimait bien, cette dame, vous voyez que j'en parle avec tout en étant ému. Hein.
Parmi les grands noms qu'on a des historiens.
Il y a c'est Hamad Chérif. C'est un grand historien, un grand intellectuel, humaniste, qui a beaucoup écrit, qui nous a marqué par sa manière d'influencer par l'école des annales, qui nous a marqué par sa manière d'écrire, de concevoir l'histoire. Il était beldi et pourtant il était ouvert. Avec ses étudiants, il était ouvert. Il a travaillé sur les campagnes tout en étant beldi. Et donc, il y a c'est Hamad Chérif, à qui je dois beaucoup. Et il y a madame Anirei Goldziger. Alors là, c'est le top. C'est la maman, la seconde maman. J'ai longuement côtoyé madame Anirei Goldziger et elle était à Tunis. J'allais parfois la voir avec mon travail. J'avais pas des relations développées avec elle, contrairement à d'autres collègues qui travaillaient avec elle. Mais tout simplement, parfois, je l'invite chez moi pour prendre un couscous ou poisson. Lorsqu'elle est devenue d'un certain âge, je la prenais pendant la région de Corbus. Lorsqu'elle est fatiguée, elle m'appelle, je la prends quelque part dans les campagnes tunisiennes. Et lorsque j'étais en France, parfois je me rends chez elle, à Boulevard Brune, pour travailler, pour discuter. Ça s'arrête là, pas plus. Je n'ai pas de relation privilégiée, contrairement à d'autres personnes. À d'autres... Il y avait des gens de tout genre chez Aniré, hein, des opposants, des étudiants tunisiens, algériens, maghrébins, bref. À la fin de sa vie, on a voulu confisquer sa maison, ici, et elle m'a dit... avec un ton amer, les Tunisiens, malheureusement, ils m'ont jugé, ils m'ont sucé, ils m'ont jeté comme un citron. Pas mal d'universités ont demandé ses archives. Elle a refusé et elle m'a donné ses archives. Et elles sont là à l'Institut. Je les ai ramenées. Elles sont déposées aux archives. Aux archives de l'Institut d'histoire de la Tunisie contemporaine. Pourquoi ce choix ? Parce qu'elle était fondatrice du programme de PNR qui a évolué en Institut d'histoire national, mouvement national, avec Charles Andoujian, avec Hamad Chérif. Et ses archives sont là. Donc, c'est un don, c'est un geste qu'elle a fait aux Tunisiens et à ma petite personne, parce qu'elle avait confiance en moi. Et ça me touche, donc cette attitude, ce geste qu'elle a fait à la fin de sa vie, me touche énormément. C'est la, disons, la troisième personne qui m'a beaucoup marqué. Il y a le regretté aussi Jean Bouvier. Sa manière d'écrire, sa manière de donner son séminaire, sa modestie, c'est un grand monsieur, Jean Bouvier. Voilà les personnes qui m'ont marqué sur le plan intellectuel, sur le plan scientifique, à qui je dois beaucoup. Je n'étais pas conscient de Mme Amna Blahajah, mais bon, c'est là. Son influence est toujours présente. Voilà.
Merci pour ta
compréhension. Aïchk, aïchk. Donc, j'ai parlé d'une manière spontanée. Je te remercie. Et c'est dans mes propos, j'ai peut-être porté atteinte à une personne ou quelqu'un d'autre. Je demande pardon, je m'excuse.
Pardon.
Merci.
Merci beaucoup. Voilà.